troisième partie, chapitre 7.
Tenez, justement, me dit madame de Guermantes en attachant sur moi un regard souriant et doux, parce que, en maîtresse de maison accomplie, elle voulait, sur l'artiste qui m'intéressait particulièrement, laisser paraître son savoir et me donner au besoin l'occasion de faire montre du mien. « Tenez !» me dit-elle en agitant légèrement son éventail de plumes, tant elle était consciente, à ce moment-là, qu'elle exerçait pleinement les devoirs de l'hospitalité. Et, pour ne manquer à aucun, faisant signe aussi qu'on me redonnât des asperges sauce mousseline. « Tenez !» Je crois justement que Zola a écrit une étude sur Elstir, ce peintre dont vous avez été regarder quelques tableaux tout à l'heure, les seuls du reste que j'aime de lui, ajouta-t-elle. En réalité, elle détestait la peinture d'Elstir, mais trouvait d'une qualité unique tout ce qui était chez elle. Je demandai à monsieur de Guermantes s'il savait le nom du monsieur qui figurait en chapeau haut de forme dans le tableau populaire, et que j'avais reconnu pour le même dont les Guermantes possédaient tout à côté le portrait d'apparat, datant à peu près de cette même période où la personnalité d'Elstir n'était pas encore complètement dégagée et s'inspirait un peu de Manet. « Mon Dieu, me répondit-il, je sais que c'est un homme qui n'est pas un inconnu ni un imbécile dans sa spécialité, mais je suis brouillé avec les noms. Je l'ai là, sur le bout de la langue, monsieur... Enfin, peu importe, je ne sais plus. Swann vous dirait cela. C'est lui qui a fait acheter ses machines à madame de Guermantes, qui est toujours trop aimable, qui a toujours trop peur de contrarier si elle refuse quelque chose. Entre nous, je crois qu'il nous a collé des croûtes. Ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur est pour monsieur Elstir une espèce de mécène qu'il a lancé, et l'a souvent tiré d'embarras en lui commandant des tableaux. Par reconnaissance, si vous appelez cela de la reconnaissance, ça dépend des goûts. Il l'a peint dans cet endroit-là, où, avec son air endimanché, il fait un assez drôle d'effet. Ça a peut-être un pontife très calé, mais il ignore évidemment dans quelles circonstances on met un chapeau haut de forme. Avec le sien, au milieu de toutes ses filles en cheveux, il a l'air d'un petit notaire de province en goguette. Mais dites donc, vous me semblez tout à fait féru de ces tableaux. Si j'avais su ça, je me serais tuyauté pour vous répondre. Du reste, il n'y a pas lieu de se mettre autant martel en tête pour creuser la peinture de monsieur Elstir que s'il s'agissait de la source d'Ingres ou des enfants d'Édouard de Paul de la Roche. Ce qu'on apprécie là-dedans, c'est que c'est finement observé. Amusant, parisien. Et puis, on passe. Il n'y a pas besoin d'être un érudit pour regarder ça. Je sais bien que ce sont de simples pochades, mais je ne trouve pas que ce soit assez travaillé. Swann avait le toupet de vouloir nous faire acheter une botte d'asperges. Elles sont même restées ici quelques jours. Il n'y avait que cela dans le tableau. Une botte d'asperges, précisément semblable à celle que vous êtes en train d'avaler. Mais moi, je me suis refusé à avaler les asperges de monsieur Elstir. Il en demandait 300 francs. 300 francs, une botte d'asperges. Un louis, voilà ce que ça vaut, même en primeur. Je l'ai trouvé roide. Dès qu'à ces choses-là, il ajoute des personnages, cela a un côté canaille, pessimiste, qui me déplaît. Je suis étonné de voir un esprit fin, un cerveau distingué comme vous, aimer cela.
« Je ne sais pas pourquoi vous dites cela, Bazin, » dit la duchesse qui n'aimait pas qu'on dépréciât ce que ces salons contenaient. « Je suis loin de tout admettre sans distinction dans les tableaux d'Elstir. Il y a à prendre et à laisser, mais ce n'est toujours pas sans talent. Et il faut avouer que ceux que j'ai achetés sont d'une beauté rare. »
« Oriane, dans ce genre-là, je préfère mille fois la petite étude de monsieur Vibert que nous avons vue à l'exposition des aquarellistes. Ce n'est rien, si vous voulez, cela tiendrait dans le creux de la main. Mais il y a de l'esprit jusqu'au bout des ongles.
ce missionnaire décharné et sale, devant ce prélat douillé qui fait jouer son petit chien, c'est tout un petit poème de finesse et même de profondeur.
« Je crois que vous connaissez M. Elstir, » me dit la duchesse. « L'homme est agréable. »«
Il est intelligent, » dit le duc.
« On est étonné, quand on cause avec lui, que sa peinture soit si vulgaire. »
« Il est plus qu'intelligent, il est même assez spirituel, » dit la duchesse de l'air entendu et dégustateur d'une personne qui s'y connaît.
« Est-ce qu'il n'avait pas commencé un portrait de vous, Oriane ?» demanda la princesse de Parme.
« Si, en rouge écrevisse, » répondit madame de Guermantes. « Mais ce n'est pas cela qui fera passer son nom à la postérité. C'est une horreur. Bazin voulait le détruire. »
Cette phrase-là, madame de Guermantes la disait souvent. Mais d'autres fois, son appréciation était autre.
« Je n'aime pas sa peinture, mais il a fait autrefois un beau portrait de moi. »
L'un de ses jugements s'adressait d'habitude aux personnes qui parlaient à la duchesse de son portrait, l'autre à ceux qui ne lui en parlaient pas et à qui elle désirait en apprendre l'existence. Le premier lui était inspiré par la coquetterie, le second par la vanité.
« Faire une horreur avec un portrait de vous ? Mais alors, ce n'est pas un portrait, c'est un mensonge. Moi qui sais à peine tenir un pinceau, il me semble que si je vous peignais, rien qu'en représentant ce que je vois, je ferais un chef-d'œuvre. »
dit naïvement la princesse de Parme.
« Il me voit probablement comme je me vois, c'est-à-dire dépourvu d'agrément, »
dit madame de Guermantes avec le regard à la fois mélancolique, modeste et câlin, qui lui parut le plus propre à la faire paraître autre que ne l'avait montré Elstir.
« Ce portrait ne doit pas déplaire à madame de Galardon, » dit le duc.
« Parce qu'elle ne s'y connaissait pas en peinture ?»
demanda la princesse de Parme, qui savait que madame de Guermantes méprisait infiniment sa cousine.
« Mais c'est une très bonne femme, n'est-ce pas ?»
Le duc prit un air d'étonnement profond.
« Mais voyons, Bazin, vous ne voyez pas que la princesse se moque de vous ?»
La princesse n'y songeait pas.
« Elle sait aussi bien que vous que Galardonnette est une vieille poison !»
reprit madame de Guermantes, dont le vocabulaire, habituellement limité à toutes ces vieilles expressions, était savoureux comme ces plats possibles à découvrir dans les livres délicieux de Pampille. Mais dans la réalité, devenue si rare, où les gelées, le beurre, le jus, les quenelles sont authentiques, ne comportent aucun alliage, et même où on fait venir le sel des marais salants de Bretagne. À l'accent, au choix des mots, on sentait que le fond de conversation de la duchesse venait directement de Guermantes. Par là, la duchesse différait profondément de son neveu Saint-Loup, envahi par tant d'idées et d'expressions nouvelles. Il est difficile, quand on est troublé par les idées de Kant et la nostalgie de Baudelaire, d'écrire le français exquis d'Henri IV, de sorte que la pureté même du langage de la duchesse était un signe de limitation, et qu'en elle, et l'intelligence et la sensibilité étaient restées fermées à toutes les nouveautés. Là encore, l'esprit de madame de Guermantes me plaisait, justement parce qu'il excluait et qui composait précisément la matière de ma propre pensée, et tout ce qu'à cause de cela même il avait pu conserver, cette séduisante vigueur des corps souples qu'aucune épuisante réflexion, nul souci moral ou trouble nerveux n'ont altéré. Son esprit, d'une formation si antérieure au mien, était pour moi l'équivalent de ce que m'avait offert la démarche des jeunes filles de la petite bande au bord de la mer. Madame de Guermantes m'offrait, domestiquée et soumise par l'amabilité, par le respect envers les valeurs spirituelles, l'énergie et le charme d'une cruelle petite fille de l'aristocratie des environs de Combray, qui, dès son enfance, montait à cheval, casser les reins au chat, arracher l'œil au lapin, et,
aussi bien qu'elle était restée une fleur de vertu, aurait pu, tant elle avait les mêmes élégances, pas mal d'années auparavant, être la plus brillante maîtresse du prince de Sagan. Seulement, elle était incapable de comprendre ce que j'avais cherché en elle, le charme du nom de Guermantes, et le petit peu que j'y avais trouvé, un reste provincial de Guermantes. Nos relations étaient-elles fondées sur un malentendu qui ne pouvait manquer de se manifester dès que mes hommages, au lieu de s'adresser à la femme relativement supérieure qu'elle se croyait être, irait vers quelque autre femme aussi médiocre et exhalant le même charme involontaire? Malentendu si naturel et qui existera toujours entre un jeune homme rêveur et une femme du monde, mais qui le trouble profondément, tant qu'il n'a pas encore reconnu la nature de ses facultés d'imagination et n'a pas pris son parti des déceptions inévitables qu'il doit éprouver auprès des êtres, comme au théâtre, en voyage et même en amour. Monsieur de Guermantes ayant déclaré, suite aux asperges d'Elstir et à celles qui venaient d'être servies après le poulet financier, que les asperges vertes poussées à l'air et qui, comme dit si drôlement l'auteur exquis qui signe « E » de Clermont-Tonnerre, n'ont pas la rigidité impressionnante de leur sœur, devraient être mangées avec des œufs. Ce qui me plaît aux uns déplaît aux autres et vice-versa, répondit M. de Bréauté. Dans la province de Canton, en Chine, on ne peut pas vous offrir un plus fin régal que des œufs d'ortolans complètement pourris. M. de Bréauté, auteur d'une étude sur les Mormons, parue dans la Revue des Deux Mondes, ne fréquentait que les milieux les plus aristocratiques, mais parmi eux, seulement ceux qui avaient un certain renom d'intelligence. De sorte qu'à sa présence, du moins assidue chez une femme, on reconnaissait si celle-ci avait un salon. Il prétendait détester le monde et assurait séparément à chaque duchesse que c'était à cause de son esprit et de sa beauté qu'il la recherchait. Toutes en étaient persuadées. Chaque fois que, la mort dans l'âme, il se résignait à aller à une grande soirée chez la princesse de Parme, il les convoquait toutes pour lui donner du courage et ne paraissait ainsi qu'au milieu d'un cercle intime. Pour que sa réputation d'intellectuel survécût à sa mondanité, appliquant certaines maximes de l'esprit des Guermantes, il partait avec des dames élégantes faire de longs voyages scientifiques à l'époque des bals. Et quand une personne snob, par conséquent sans situation encore, commençait à aller partout, il mettait une obstination féroce à ne pas vouloir la connaître, à ne pas se laisser présenter. Sa haine des snobs découlait de son snobisme, mais faisait croire aux naïfs, c'est-à-dire à tout le monde, qu'il en était exempt. « Babal, c'est toujours tout !» s'écria la duchesse de Guermantes. « Je trouve charmant un pays où on veut être sûr que votre crémier vous vende des œufs bien pourris, des œufs de l'année de la comète. Je me vois d'ici, trempant ma mouillette beurrée. Je dois dire que cela arrive chez la tante Madeleine. » Madame de Villeparisis, conserve des choses en putréfaction, même des œufs. Et comme Madame d'Arpajon se récriait, « Mais voyons, Philie, vous le savez aussi bien que moi, le poussin est déjà dans l'œuf. Je ne sais même pas comment ils ont la sagesse de s'y tenir. Ce n'est pas une omelette, c'est un poulailler. Mais au moins ce n'est pas indiqué sur le menu. Vous avez bien fait de ne pas venir dîner avant-hier. Il y avait une barbue à l'acide phénique. Ça n'avait pas l'air d'un service de table, mais d'un service de contagieux. Vraiment, Norpois pousse la fidélité jusqu'à l'héroïsme. Il en a repris. Je crois vous avoir vu à dîner chez elle, le jour où elle a fait cette sortie à ce monsieur Bloch. Monsieur de Guermantes, peut-être pour donner à un nom israélite l'air plus étranger, ne prononça pas le CH de Bloch comme un K, mais comme dans
Hoch en allemand. Qui avait dit de je ne sais plus quel poète, poète, qu'il était sublime. Châtellerault avait beau casser les tibias de Monsieur Bloch, celui-ci ne comprenait pas, et croyait les coups de genoux de mon neveu destinés à une jeune femme assise tout contre lui. Ici, Monsieur de Guermantes rougit légèrement. Il ne se rendait pas compte qu'il agaçait notre tante avec ses sublimes données en veux-tu en voilà. Bref, la tante Madeleine, qui n'a pas sa langue dans sa poche, lui a riposté. « Eh, monsieur, que garderez-vous alors pour monsieur de Bossuet ?» Monsieur de Guermantes croyait que, devant un nom célèbre, « monsieur » et une particule étaient essentiellement ancien régime. C'était à payer sa place. « Et qu'a répondu ce monsieur Bloch ?» demanda distraitement madame de Guermantes, qui, à court d'originalité à ce moment-là, crut devoir copier la prononciation germanique de son mari. Ah, je vous assure que monsieur Bloch n'a pas demandé son reste, il court encore. Mais oui, je me rappelle très bien vous avoir vu ce jour-là, me dit d'un ton marqué madame de Guermantes, comme si de sa part ce souvenir avait quelque chose qui dut beaucoup me flatter. C'est toujours très intéressant chez ma tante. À la dernière soirée où je vous ai justement rencontré, je voulais vous demander si ce vieux monsieur qui a passé près de nous n'était pas François Copé. Vous devez savoir tous les noms, me dit-elle avec une envie sincère pour mes relations poétiques et aussi par amabilité à mon égard pour poser davantage aux yeux de ses invités un jeune homme aussi versé dans la littérature. J'assurai à la duchesse que je n'avais vu aucune figure célèbre à la soirée de madame de Villeparisis. Comment ? Me dit étourdiment madame de Guermantes, avouant par là que son respect pour les gens de lettres et son dédain du monde étaient plus superficiels qu'elle ne disait, et peut-être même qu'elle ne croyait. Comment ? Il n'y avait pas de grands écrivains ? Vous m'étonnez ! Il y avait pourtant des têtes impossibles. Je me souvenais très bien de ce soir-là, à cause d'un incident absolument insignifiant. Madame de Villeparisis avait présenté Bloch à madame Alphonse de Rothschild. Mais mon camarade n'avait pas entendu le nom, et, croyant avoir affaire à une vieille Anglaise un peu folle, n'avait répondu que par monosyllabes aux prolixes paroles de l'ancienne beauté. Quand madame de Villeparisis, la présentant à quelqu'un d'autre, avait prononcé, très distinctement cette fois, « la baronne Alphonse de Rothschild ». Alors était entrée subitement dans les artères de Bloch et d'un seul coup, tant d'idées de millions et de prestiges, lesquelles eussent dû être prudemment subdivisées, qu'il avait eu comme un coup au cœur, un transport au cerveau. Et s'était écrié en présence de l'aimable vieille dame « Si j'avais su !» Exclamation dont la stupidité l'avait empêché de dormir pendant 8 jours. Ce mot de Bloch avait peu d'intérêt, mais je m'en souvenais comme preuve que, parfois dans la vie, sous le coup d'une émotion exceptionnelle, on dit ce que l'on pense. Je crois que madame de Villeparisis n'est pas absolument... « Morale, » dit la princesse de Parme, qui savait qu'on n'allait pas chez la tante de la duchesse, et, par ce que celle-ci venait de dire, voyait qu'on pouvait en parler librement. Mais madame de Guermantes, ayant l'air de ne pas approuver, elle ajouta « Mais à ce degré-là, l'intelligence fait tout passer. » « Mais vous vous faites de ma tante l'idée qu'on s'en fait généralement. » répondit la duchesse, et qui est, en somme, très fausse. C'est justement ce que me disait Mémé pas plus tard qu'hier. Elle rougit. Un souvenir inconnu de moi embua ses yeux. Je fis la supposition que monsieur de Charlus lui avait demandé de me désinviter, comme il m'avait fait prier par Robert de ne pas aller chez elle. J'eus l'impression que la rougeur, d'ailleurs incompréhensible pour moi,
qu'avait eu le duc en parlant à un moment de son frère ne pouvait pas être attribué à la même cause.
« Ma pauvre tante, elle gardera la réputation d'une personne de l'Ancien Régime, d'un esprit éblouissant et d'un dévergondage effréné. Il n'y a pas d'intelligence plus bourgeoise, plus sérieuse, plus terne. Elle passera pour une protectrice des arts, ce qui veut dire qu'elle a été la maîtresse d'un grand peintre. Mais il n'a jamais pu lui faire comprendre ce que c'était qu'un tableau. Et quant à sa vie, bien loin d'être une personne dépravée, elle était tellement faite pour le mariage, elle était tellement née conjugale, que n'ayant pu conserver un époux, qui était du reste une canaille, elle n'a jamais eu une liaison qu'elle n'ait pris aussi au sérieux que si c'était une union légitime, avec les mêmes susceptibilités, les mêmes colères, la même fidélité. Remarquez que ce sont quelquefois les plus sincères. Il y a en somme plus d'amants que de maris inconsolables. Pourtant, Oriane, regardez justement votre beau-frère Palamède dont vous êtes en train de parler. Il n'y a pas de maîtresse qui puisse rêver d'être pleurée comme l'a été cette pauvre madame de Charlus.
Ah ! Répondit la duchesse, que votre Altesse me permette de ne pas être tout à fait de son avis. Tout le monde n'aime pas être pleuré de la même manière. Chacun a ses préférences.
Enfin, il lui avouait un vrai culte depuis sa mort. Il est vrai qu'on fait quelquefois pour les morts des choses qu'on n'aurait pas faites pour les vivants.
D'abord, répondit madame de Guermantes sur un ton rêveur qui contrastait avec son intention gouailleuse, on va à leur enterrement, ce qu'on ne fait jamais pour les vivants.
Monsieur de Guermantes regarda d'un air malicieux Monsieur de Bréauté, comme pour le provoquer à rire de l'esprit de la duchesse.
« Mais enfin, j'avoue franchement, reprit madame de Guermantes, que la manière dont je souhaiterais d'être pleurée par un homme que j'aimerais n'est pas celle de mon beau-frère. »
La figure du duc se rembrunit. Il n'aimait pas que sa femme portât des jugements à tort et à travers, surtout sur Monsieur de Charlus.
Vous êtes difficile. Son regret a édifié tout le monde, dit-il d'un ton rogue.
Mais la duchesse avait, avec son mari, cette espèce de hardiesse des dompteurs, ou des gens qui vivent avec un fou et qui ne craignent pas de l'irriter.
Eh bien, non, qu'est-ce que vous voulez? C'est édifiant, je ne dis pas. Il va tous les jours au cimetière lui raconter combien de personnes il a eues à déjeuner. Il la regrette énormément, mais comme une cousine, comme une grand-mère, comme une sœur. Ce n'est pas un deuil de mari. Il est vrai que c'était deux saints, ce qui rend le deuil un peu spécial.
Monsieur de Guermantes, agacé du caquetage de sa femme, fixait sur elle avec une immobilité terrible des prunelles toutes chargées.
Ce n'est pas pour dire du mal du pauvre mémé qui, entre parenthèses, n'était pas libre ce soir, reprit la duchesse. Je reconnais qu'il est bon comme personne. Il est délicieux. Il a une délicatesse, un cœur comme les hommes n'en ont pas généralement. C'est un cœur de femme, mémé.
Ce que vous dites est absurde,
interrompit vivement Monsieur de Guermantes.
Mémé n'a rien d'efféminé. Personne n'est plus viril que lui.
Mais je ne vous dis pas qu'il soit efféminé le moins du monde. Comprenez au moins ce que je dis, reprit la duchesse.
Ah, celui-là, dès qu'il croit qu'on veut toucher à son frère,
ajouta-t-elle en se tournant vers la princesse de Parme.
C'est très gentil, c'est délicieux à entendre. Il n'y a rien de si beau que deux frères qui s'aiment,
dit la princesse de Parme, comme l'auraient fait beaucoup de gens du peuple, car on peut appartenir à une famille princière et à une famille par le sang, par l'esprit fort populaire.
« Puisque nous parlions de votre famille, Oriane, » dit la princesse, « j'ai vu hier votre neveu, Saint-Loup. Je crois qu'il voudrait vous demander un service. »
Le duc de Guermantes fronça son sourcil jupitérien. Quand il n'aimait pas rendre un service, il ne voulait pas que sa femme s'en chargeât, sachant que cela reviendrait au même, et que les personnes à qui la duchesse avait été obligée de le demander l'inscriraient au débit commun de ménage, tout aussi bien que s'il avait été demandé par le mari seul.
« Pourquoi ne me l'a-t-il pas demandé lui-même ? »
dit la duchesse.
« Il est resté 2 heures ici, hier, et Dieu sait ce qu'il a pu être ennuyeux. Il ne serait pas plus stupide qu'un autre s'il avait eu, comme tant de gens du monde, l'intelligence de savoir rester bête. Seulement, c'est ce badigeon de savoir qui est terrible. Il veut avoir une intelligence ouverte, ouverte à toutes les choses qu'il ne comprend pas. Il vous parle du Maroc, c'est affreux.
Il ne veut pas y retourner, à cause de Rachel, dit le prince de foi.
« Mais puisqu'ils ont rompu !»
interrompit M. de Bréauté.
Ils ont si peu rompu que je l'ai trouvé il y a 2 jours dans la garçonnière de Robert. Ils n'avaient pas l'air de gens brouillés, je vous assure !»
répondit le prince de foi, qui aimait à répandre tous les bruits pouvant faire manquer un mariage à Robert, et qui d'ailleurs pouvait être trompé par les reprises intermittentes d'une liaison en effet finie.
« Cette Rachel m'a parlé de vous. Je la vois comme ça en passant le matin aux Champs-Élysées. C'est une espèce d'évaporée, comme vous dites. Ce que vous appelez une dégrafée, une sorte de dame aux camélias, au figuré, bien entendu. »
Ce discours m'était tenu par le prince Von, qui tenait à avoir l'air au courant de la littérature française et des finesses parisiennes.
« Justement, c'est à propos du Maroc !»
s'écria la princesse, saisissant précipitamment ce joint.
« Qu'est-ce qu'il peut vouloir pour le Maroc ?»
demanda sévèrement Monsieur de Guermantes.
« Oriane ne peut absolument rien dans cet ordre-là, il le sait bien. »«
Il croit qu'il a inventé la stratégie, » poursuivit Madame de Guermantes. « Et puis il emploie des mots impossibles pour les moindres choses. » Ce qui n'empêche pas qu'il fait des pâtés dans ses lettres. L'autre jour, il a dit qu'il avait mangé des pommes de terre sublimes et qu'il avait trouvé à louer une baignoire sublime.
« Il parle latin, » enchérit le duc.
« Comment, latin ? » demanda la princesse.
« Ma parole d'honneur, que madame demande à Oriane, si j'exagère.
« Mais comment, madame ? L'autre jour, il a dit dans une seule phrase, d'un seul trait, « Je ne connais pas d'exemple de sic transit gloria mundi plus touchant. » Je dis la phrase à votre Altesse, parce qu'après 20 questions, et en faisant appel à des linguistes, nous sommes arrivés à la reconstituer. Mais Robert a jeté cela sans reprendre haleine. On pouvait à peine distinguer qu'il y avait du latin là-dedans. Il avait l'air d'un personnage du malade imaginaire. Et tout ça s'appliquait à la mort de l'impératrice d'Autriche.
« Pauvre femme !» s'écria la princesse. « Quelle délicieuse créature c'était !»«
Oui, » répondit la duchesse. « Un peu folle, un peu insensée. Mais c'était une très bonne femme, une gentille folle, très aimable. » Je n'ai seulement jamais compris pourquoi elle n'avait jamais acheté un râtelier qui tint. Le sien se décrochait toujours avant la fin de ses phrases, et elle était obligée de les interrompre pour ne pas l'avaler.
« Cette Rachel m'a parlé de vous. Elle m'a dit que le petit Saint-Loup vous adorait, vous préférez même à elle, » me dit le prince Von, tout en mangeant comme un ogre, le teint vermeil et dont le rire perpétuel découvrait toutes les dents.
« Mais alors, elle doit être jalouse de moi et me détester, » répondis-je.
« Pas du tout. Elle m'a dit beaucoup de bien de vous. La maîtresse du prince de foi serait peut-être jalouse s'il vous préférait à elle. Vous ne comprenez pas ? Revenez avec moi, je vous expliquerai tout cela. »
« Je ne peux pas. Je vais chez Monsieur de Charlus à 11 heures. »«
Tiens, il m'a fait demander hier de venir dîner ce soir, mais de ne pas venir après 11 heures moins le quart. Mais si vous tenez à aller chez lui, Venez au moins avec moi jusqu'au Théâtre Français. Vous serez dans la périphérie. »
dit le prince qui croyait sans doute que cela signifiait « à proximité » ou peut-être « le centre ».
Mais ses yeux dilatés dans sa grosse et belle figure rouge me firent peur et je refusai en disant qu'un ami devait venir me chercher. Cette réponse ne me semblait pas blessante. Le prince en reçut sans doute une impression différente car jamais il ne m'adressa plus la parole.
Il faut justement que j'aille voir la reine de Naples. Quel chagrin elle doit avoir,
dit, ou du moins me parut avoir dit, la princesse de Parme, car ces paroles ne m'étaient arrivées qu'indistinctes à travers celles plus proches que m'avait adressées pourtant fort bas le prince Von, qui avait craint sans doute, s'il parlait plus haut, d'être entendu de monsieur de Foix.
Ah non, répondit la duchesse. « Ça, je crois qu'elle n'en a aucun. »«
Aucun ? Vous êtes toujours dans les extrêmes, Oriane, » dit monsieur de Guermantes, reprenant son rôle de falaise, qui, en s'opposant à la vague, la force à lancer plus haut son panache d'écume.
« Bazin, c'est encore mieux que moi que je dis la vérité, » répondit la duchesse. « Mais il se croit obligé de prendre des airs sévères à cause de votre présence. » Et il a peur que je vous scandalise.
« Oh non, je vous en prie !» s'écria la princesse de Parme, craignant qu'à cause d'elle, on altérât en quelque chose ces délicieux mercredis de la duchesse de Guermantes, ce fruit défendu auquel la reine de Suède elle-même n'avait pas encore eu le droit de goûter.
« Mais c'est à lui-même qu'elle a répondu !» comme il lui disait, d'un air banalement triste, « Mais la reine est en deuil, de qui donc? Est-ce un chagrin pour votre majesté ?»«
Non, ce n'est pas un grand deuil, c'est un petit deuil, un tout petit deuil, c'est ma sœur. »
La vérité, c'est qu'elle est enchantée comme cela. Bazin le sait très bien. Elle nous a invités à une fête le jour même et m'a donné deux perles. Je voudrais qu'elle perdît une sœur tous les jours. Elle ne pleure pas à la mort de sa sœur. Elle la rit aux éclats. Elle se dit probablement, comme Robert, que « sic transit ». Enfin, je ne sais plus, ajouta-t-elle par modestie, quoiqu'elle sût très bien.
D'ailleurs, madame de Guermantes faisait seulement en ceci de l'esprit et du plus faux, car la reine de Naples, comme la duchesse d'Alençon, morte tragiquement aussi, avait un grand cœur, et a sincèrement pleuré les siens. Madame de Guermantes connaissait trop les nobles sœurs bavaroises, ses cousines, pour l'ignorer.
Il aurait voulu ne pas retourner au Maroc, dit la princesse de Parme en saisissant à nouveau ce nom de Robert que lui tendait bien involontairement comme une perche madame de Guermantes. Je crois que vous connaissez le général de Montcerfeuil.
Très peu, répondit la duchesse, qui était intimement liée avec cet officier. La princesse expliqua ce que désirait Saint-Loup.
« Mon Dieu, si je le vois, cela peut arriver que je le rencontre !» répondit, pour ne pas avoir l'air de refuser, la duchesse, dont les relations avec le général de Montcerfeuil semblaient s'être rapidement espacées depuis qu'il s'agissait de lui demander quelque chose. Cette incertitude ne suffit pourtant pas au duc, qui, interrompant sa femme,
« Vous savez bien que vous ne le verrez pas, Oriane, » dit-il. « Et puis vous lui avez demandé deux choses qu'il n'a pas faites.
Ma femme a la rage d'être aimable, » reprit-il de plus en plus furieux pour forcer la princesse à retirer sa demande, sans que cela pût faire douter de l'amabilité de la duchesse. Et pour que madame de Parme rejeta la chose sur son propre caractère à lui, essentiellement quinteux.
Robert pourrait ce qu'il voudrait sur Montcerfeuil. Seulement, comme il ne sait pas ce qu'il veut, il le fait demander par nous, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de meilleure manière de faire échouer la chose.
Oriane a trop demandé de choses à Montcerfeuil. Une demande d'elle maintenant, c'est une raison pour qu'il refuse.
Dans ces conditions, il vaut mieux que la duchesse ne fasse rien,
dit madame de Parme.
« Naturellement, » conclut le duc.
« Ce pauvre général, il a encore été battu aux élections, » dit la princesse de Parme pour changer de conversation.
« Oh, ce n'est pas grave, ce n'est que la 7e fois, » dit le duc,
qui, ayant dû lui-même renoncer à la politique, aimait assez les insuccès électoraux des autres.
« Il s'est consolé en voulant faire un nouvel enfant à sa femme.
« Comment ? Cette pauvre madame de Montcerfeuil est encore enceinte ? »
s'écria la princesse.
« Mais parfaitement, » répondit la duchesse. « C'est le seul arrondissement où le pauvre général n'a jamais échoué. »
Je ne devais plus cesser par la suite d'être continuellement invitée, fût-ce avec quelques personnes seulement, à ces repas dont je m'étais autrefois figuré les convives comme les apôtres de la Sainte-Chapelle. Ils se réunissaient là, en effet, comme les premiers chrétiens, non pour partager seulement une nourriture matérielle, d'ailleurs exquise, mais dans une sorte de scène sociale. De sorte qu'en peu de dîners, j'assimilais la connaissance de tous les amis de mes hôtes, amis auxquels ils me présentaient avec une nuance de bienveillance si marquée comme quelqu'un qu'ils auraient de tout temps paternellement préféré, qu'il n'est pas un d'entre eux qui n'eût cru manquer au duc et à la duchesse s'il avait donné un bal sans me faire figurer sur sa liste. Et en même temps, tout en buvant un des jicems que recelaient les caves des Guermantes, je savourais des ortolans accommodés selon les différentes recettes que le duc élaborait et modifiait prudemment. Cependant, pour qui s'était déjà assis plus d'une fois à la table mystique, la manducation de ces derniers n'était pas indispensable. De vieux amis de monsieur et de madame de Guermantes venaient les voir après dîner, en cure-dent, aurait dit madame Swann, sans être attendus, et prenaient l'hiver une tasse de tilleul aux lumières du grand salon, l'été un verre d'orangeade dans la nuit du petit bout de jardin rectangulaire. On n'avait jamais connu, des Guermantes, dans ses après-dîners au jardin, que l'orangeade. Elle avait quelque chose de rituel. Y ajouter d'autres rafraîchissements eût semblé dénaturer la tradition. De même qu'un grand raout dans le faubourg Saint-Germain n'est plus un raout s'il y a une comédie ou de la musique. Il faut qu'on soit censé venir simplement, y eût-il 500 personnes, faire une visite à la princesse de Guermantes, par exemple. On admira mon influence, parce que je pus, à l'orangeade, faire ajouter une carafe contenant du jus de cerise cuite, de poire cuite. Je pris en inimitié, à cause de cela, le prince d'Agrigente, qui, comme tous les gens dépourvus d'imagination, mais non d'avarice, s'émerveille de ce que vous buvez et vous demande la permission d'en prendre un peu. De sorte que, chaque fois, monsieur d'Agrigente, en diminuant ma ration, gâtait mon plaisir, car ce jus de fruits n'est jamais en assez grande quantité pour qu'il désaltère. Rien ne lasse moins que cette transposition en saveur de la couleur d'un fruit, lequel cuit semble rétrogradé vers la saison des fleurs. Empourpré comme un verger au printemps, ou bien incolore et frais comme le zéphyr sur les arbres fruitiers, le jus se laisse respirer et regarder, goutte à goutte. Et monsieur d'Agrigente m'empêchait régulièrement de m'en rassasier. Malgré ses compotes, l'orangeade traditionnelle subsista comme le tilleul. Sous ces modestes espèces, la communion sociale n'en avait pas moins lieu. En cela, sans doute, les amis de monsieur et madame de Guermantes étaient tout de même, comme je me les étais d'abord figurés, restés plus différents que leur aspect décevant ne m'eût porté à le croire. Main vieillard venait recevoir chez la duchesse, en même temps que l'invariable boisson, un accueil souvent assez peu aimable. Or, ce ne pouvait être par snobisme, étant eux-mêmes d'un rang auquel nul autre n'était supérieur.
ni par amour du luxe. Il l'aimait peut-être, mais dans de moindres conditions sociales, il se put en connaître un splendide. Car ces mêmes soirs, la femme charmante d'un richissime financier eut tout fait pour les avoir à des chasses éblouissantes qu'elle donnerait pendant 2 jours pour le roi d'Espagne. Ils avaient refusé néanmoins, et étaient venus à tout hasard voir si madame de Guermantes était chez elle. Ils n'étaient même pas certains de trouver là des opinions absolument conformes aux leurs, ou des sentiments spécialement chaleureux. Madame de Guermantes lançait parfois sur l'affaire Dreyfus, sur la République, sur les lois antireligieuses, ou même à mi-voix sur eux-mêmes, sur leurs infirmités, sur le caractère ennuyeux de leur conversation, des réflexions qu'ils devaient faire semblant de ne pas remarquer. Sans doute, s'ils gardaient là leurs habitudes, était-ce par éducation affinée du gourmet mondain, par claire connaissance de la parfaite et première qualité du mets social, au goût familier, rassurant et sapide, sans mélange, non frelaté, dont ils savaient l'origine et l'histoire, aussi bien que celle qui la leur servait, restés plus nobles en cela qu'ils ne le savaient eux-mêmes. Or, parmi ces visiteurs auxquels je fus présenté après dîner, le hasard fit qu'il y eut ce général de Montcerfeuil dont avait parlé la princesse de Parme, et que madame de Guermantes, du salon de qui il était un des habitués, ne savait pas devoir venir ce soir-là. Il s'inclina devant moi, en entendant mon nom, comme si j'eusse été président du Conseil supérieur de la guerre. J'avais cru que c'était simplement par quelque inserviabilité foncière, et pour laquelle le duc, comme pour l'esprit, sinon pour l'amour, était le complice de sa femme, que la duchesse avait presque refusé de recommander son neveu à monsieur de Montcerfeuil. Et je voyais là une indifférence d'autant plus coupable que j'avais cru comprendre, par quelques mots échappés à la princesse de Parme, que le poste de Robert était dangereux et qu'il était prudent de l'en faire changer. Mais ce fut par la véritable méchanceté de madame de Guermantes que je fus révoltée, quand, la princesse de Parme ayant timidement proposé d'en parler d'elle-même et pour son compte au général, la duchesse fit tout ce qu'elle put pour en détourner l'altesse. « Mais, madame, s'écria-t-elle, Montcerfeuil n'a aucune espèce de crédit ni de pouvoir avec le nouveau gouvernement. Ce serait un coup d'épée dans l'eau. » « Je crois qu'il pourrait nous entendre, » murmura la princesse en invitant la duchesse à parler plus bas. « Que votre Altesse ne craigne rien, il est sourd comme un pot, » dit sans baisser la voix la duchesse, que le général entendit parfaitement. « C'est que je crois que monsieur de Saint-Loup n'est pas dans un endroit très rassurant, » dit la princesse. « Que voulez-vous ? » répondit la duchesse. « Il est dans le cas de tout le monde, avec la différence que c'est lui qui a demandé à y aller. Et puis non, ce n'est pas dangereux. Sans cela, vous pensez bien que je m'en occuperai. J'en aurais parlé à Saint-Joseph pendant le dîner. Il est beaucoup plus influent et d'un travailleur. Vous voyez, il est déjà parti. Du reste, ce serait moins délicat qu'avec celui-ci, qui a justement 3 de ses fils au Maroc et n'a pas voulu demander leur changement. Il pourrait objecter cela. Puisque votre Altesse y tient, j'en parlerai à Saint-Joseph, si je le vois, ou à Beautreilly. Mais si je ne les vois pas, ne plaignez pas trop Robert. On nous a expliqué l'autre jour où c'était. Je crois qu'il ne peut être nulle part mieux que là. Quelle jolie fleur! Je n'en avais jamais vu de pareille. Il n'y a que vous, Oriane, pour avoir de telles merveilles, » dit la princesse de Parme, qui, de peur que le général de Montcerfeuil n'eût entendu la duchesse, cherchait à changer de conversation. Je reconnus une plante de l'espèce de celle qu'Elstir avait peinte devant moi. « Je suis enchantée qu'elles vous plaisent. Elles sont ravissantes. Regardez leurs petits tours de cou de velours mauve. »
Seulement, comme il peut arriver à des personnes très jolies et très bien habillées, elles ont un vilain nom et elles sentent mauvais. Malgré cela, je les aime beaucoup. Mais ce qui est un peu triste, c'est qu'elles vont mourir.
Mais elles sont en pot, ce ne sont pas des fleurs coupées, dit la princesse.
Non, répondit la duchesse en riant, mais ça revient au même, comme ce sont des dames. C'est une espèce de plante où les dames et les messieurs ne se trouvent pas sur le même pied. Je suis comme les gens qui ont une chienne. Il me faudrait un mari pour mes fleurs. Sans cela, je n'aurais pas de petits.
Comme c'est curieux. Mais alors, dans la nature...
Oui, il y a certains insectes qui se chargent d'effectuer le mariage, comme pour les souverains, par procuration, sans que le fiancé et la fiancée se soient jamais vus. Aussi, je vous jure que je recommande à mon domestique de mettre ma plante à la fenêtre le plus qu'il peut, tantôt du côté cour, tantôt du côté jardin, dans l'espoir que viendra l'insecte indispensable. Mais cela exigerait un tel hasard. Pensez, il faudrait qu'il ait justement été voir une personne de la même espèce et d'un autre sexe, et qu'il ait l'idée de venir mettre des cartes dans la maison. Il n'est pas venu jusqu'ici. Je crois que ma plante est toujours digne d'être rosière. J'avoue qu'un peu plus de dévergondage me plairait mieux. Tenez, c'est comme ce bel arbre qui est dans la cour. Il mourra sans enfant, parce que c'est une espèce très rare dans nos pays. Lui, c'est le vent qui est chargé d'opérer l'union, mais le mur est un peu haut.
En effet, dit monsieur de Bréauté, vous auriez dû le faire abattre de quelques centimètres seulement, cela aurait suffi. Ce sont des opérations qu'il faut savoir pratiquer. Le parfum de vanille qu'il y avait dans l'excellente glace que vous nous avez servie tout à l'heure, duchesse, vient d'une plante qui s'appelle le vanillier. Celle-là produit bien des fleurs, à la fois masculines et féminines. Mais une sorte de paroi dure, placée entre elles, empêche toute communication. Aussi ne pouvait-on jamais avoir de fruits jusqu'au jour où, un jeune nègre, natif de la Réunion, est nommé Albin, ce qui, entre parenthèses, est assez comique pour un noir, puisque cela veut dire blanc, eut l'idée, à l'aide d'une petite pointe, de mettre en rapport les organes séparés.
Babal, vous êtes divin, vous savez tout, s'écria la duchesse.
Mais vous-même, Oriane, vous m'avez appris des choses dont je ne me doutais pas, dit la princesse.
Je dirai à votre Altesse que c'est Swann qui m'a toujours beaucoup parlé de botanique. Quelquefois, quand cela nous embêtait trop d'aller à un thé ou à une matinée, nous partions pour la campagne et il me montrait des mariages extraordinaires de fleurs, ce qui est beaucoup plus amusant que les mariages de gens, sans lunch et sans sacristie. On n'avait jamais le temps d'aller bien loin. Maintenant qu'il y a l'automobile, ce serait charmant. Malheureusement, dans l'intervalle, il a fait lui-même un mariage, encore beaucoup plus étonnant, et qui rend tout difficile.
Ah, madame, la vie est une chose affreuse. On passe son temps à faire des choses qui vous ennuient, et quand, par hasard, on connaît quelqu'un avec qui on pourrait aller en voir d'intéressantes, il faut qu'il fasse le mariage de Swann. Placé entre le renoncement aux promenades botaniques et l'obligation de fréquenter une personne déshonorante, j'ai choisi la première de ces deux calamités. D'ailleurs, au fond, il n'y aurait pas besoin d'aller si loin. Il paraît que, rien que dans mon petit bout de jardin, il se passe en plein jour plus de choses inconvenantes que la nuit dans le bois de Boulogne. Seulement, cela ne se remarque pas, parce qu'entre fleurs, cela se fait très simplement. On voit une petite pluie orangée, ou bien une mouche très poussiéreuse qui vient essuyer ses pieds ou prendre une douche avant d'entrer dans une fleur. Et tout est consommé.
La commode sur laquelle la plante est posée,
est splendide aussi. C'est empire, je crois,
dit la princesse, qui, n'étant pas familière avec les travaux de Darwin et de ses successeurs, comprenait mal la signification des plaisanteries de la duchesse.
N'est-ce pas que c'est beau? Je suis ravie que madame l'aime, répondit la duchesse. C'est une pièce magnifique. Je vous dirai que j'ai toujours adoré le style empire, même au temps où cela n'était pas à la mode. Je me rappelle qu'à Guermantes, je m'étais fait honnir de ma belle-mère, parce que j'avais dit de descendre du grenier tous les splendides meubles empire que Bazin avait hérités de Montesquieu, et que j'en avais meublé l'aile que j'habitais.
Monsieur de Guermantes sourit. Il devait pourtant se rappeler que les choses s'étaient passées d'une façon fort différente. Mais les plaisanteries de la princesse des Laumes sur le mauvais goût de sa belle-mère, ayant été de tradition pendant le peu de temps où le prince avait été épris de sa femme, à son amour pour la seconde avait survécu un certain dédain pour l'infériorité d'esprit de la première. Dédain qui s'alliait d'ailleurs à beaucoup d'attachement et de respect.
Les Léna ont le même fauteuil, avec incrustation de Wedgwood. Il est beau, mais j'aime mieux le mien,
dit la duchesse, du même air d'impartialité que si elle n'avait possédé aucun de ces deux meubles.
Je reconnais du reste qu'ils ont des choses merveilleuses que je n'ai pas.
La princesse de Parme garda le silence.
Mais c'est vrai, votre Altesse ne connaît pas leur collection. Oh, elle devrait absolument y venir une fois avec moi. C'est une des choses les plus magnifiques de Paris. C'est un musée qui serait vivant.
Et comme cette proposition était une des audaces les plus guermantes de la duchesse, parce que les Léna étaient pour la princesse de Parme de purs usurpateurs, leur fils portant comme le sien le titre de duc de Guastalla, madame de Guermantes, en la lançant ainsi, ne se retint pas. Tant l'amour qu'elle portait à sa propre originalité l'emportait encore sur sa déférence pour la princesse de Parme. De jeter sur les autres convives des regards amusés et souriants. Eux aussi s'efforçaient de sourire, à la fois effrayés, émerveillés, et surtout ravis de penser qu'ils étaient témoins de la dernière Doriane et pourraient la raconter tout chaud. Il n'était qu'à demi stupéfait, sachant que la duchesse avait l'art de faire litière de tous les préjugés courvoisiers pour une réussite de vie plus piquante et plus agréable. N'avait-elle pas, au cours de ces dernières années, réuni à la princesse Mathilde le duc d'Aumale, qui avait écrit au propre frère de la princesse la fameuse lettre « Dans ma famille, tous les hommes sont braves » et toutes les femmes sont chastes. Or, les princes le restant même au moment où ils paraissent vouloir oublier qu'ils le sont, le duc d'Aumale et la princesse Mathilde s'étaient tellement plu chez madame de Guermantes qu'ils étaient ensuite allés l'un chez l'autre avec cette faculté d'oublier le passé que témoigna Louis XVIII quand il prit pour ministre Fouché qui avait voté la mort de son frère. Madame de Guermantes nourrissait le même projet de rapprochement entre la princesse Murat et la reine de Naples. En attendant, la princesse de Parme paraissait aussi embarrassée qu'auraient pu l'être les héritiers de la couronne des Pays-Bas et de Belgique, respectivement prince d'Orange et duc de Brabant, si on avait voulu leur présenter monsieur de Mahinel, prince d'Orange, et M. de Charlus, duc de Brabant. Mais d'abord la duchesse, à qui Swann et M. de Charlus, bien que ce dernier fût résolu à ignorer les Léna, avait à grand-peine fini par faire aimer le style empire. Il s'écria « Madame, sincèrement, je ne peux pas vous dire à quel point vous trouverez cela beau. J'avoue que le style empire m'a toujours impressionné. Mais chez les Léna, là, c'est vraiment comme une hallucination. Cette espèce, comment vous dire, de reflux de l'expédition d'Égypte,
et puis aussi de remonter jusqu'à nous de l'Antiquité. Tout cela qui envahit nos maisons, les sphinx qui viennent se mettre au pied des fauteuils, les serpents qui s'enroulent au candélabre, une muse énorme qui vous tend un petit flambeau pour jouer à la bouillotte, ou qui est tranquillement montée sur votre cheminée et s'accoude à votre pendule. Et puis toutes les lampes pompéiennes, les petits lits en bateau qui ont l'air d'avoir été trouvés sur le Nil, et d'où on s'attend à voir sortir Moïse. Ces quadriges antiques qui galopent le long des tables de nuit.
On n'est pas très bien assis dans les meubles empire, hasarda la princesse.
Non, répondit la duchesse, mais, ajouta madame de Guermantes en insistant avec un sourire,
j'aime être mal assise sur ces sièges d'acajou recouverts de velours grenat ou de soie verte. J'aime cet inconfort de guerrier qui ne comprennent que la chaise curule et, au milieu du grand salon, croisaient les faisceaux et entassaient les lauriers. Je vous assure que, chez les Lénas, on ne pense pas un instant à la manière dont on est assis quand on voit devant soi une grande gredine de victoire peinte à fresque sur le mur. Mon époux va me trouver bien mauvaise royaliste, mais je suis très mal pensante, vous savez. Je vous assure que chez ces gens-là, on en arrive à aimer tous ces haines, toutes ces abeilles. Mon Dieu, comme sous les rois, depuis pas mal de temps, on n'a pas été très gâtés du côté gloire. Ces guerriers qui rapportaient tant de couronnes qu'ils en mettaient jusque sur les bras des fauteuils, je trouve que ça a un certain chic. Votre Altesse devrait...
Mon Dieu, si vous croyez, dit la princesse, mais il me semble que ce ne sera pas facile.
Mais madame verra que tout s'arrangera très bien. Ce sont de très bonnes gens, pas bêtes. Nous y avons mené madame de Chevreuse, ajouta la duchesse, sachant la puissance de l'exemple. Elle a été ravie. Le fils est même très agréable.
Ce que je vais dire n'est pas très convenable, ajouta-t-elle.
Mais il a une chambre et surtout un lit où on voudrait dormir.
Sans lui. Ce qui est encore moins convenable, c'est que j'ai été le voir une fois pendant qu'il était malade et couché. À côté de lui, sur le rebord du lit, il y avait sculpté une longue sirène allongée, ravissante, avec une queue en nacre et qui tient dans la main des espèces de lotus.
« Je vous assure, » ajouta madame de Guermantes, en ralentissant son débit pour mettre encore mieux en relief les mots qu'elle avait l'air de modeler avec la moue de ses belles lèvres, le fuselage de ses longues mains expressives, et tout en attachant sur la princesse un regard doux, fixe et profond, qu'avec les palmettes et la couronne d'or qui était à côté, c'était émouvant. C'était tout à fait l'arrangement du jeune homme et la mort de Gustave Moreau. Votre Altesse connaît sûrement ce chef-d'œuvre.
La princesse de Parme, qui ignorait même le nom du peintre, fit de violents mouvements de tête et sourit avec ardeur afin de manifester son admiration pour ce tableau. Mais l'intensité de sa mimique ne parvint pas à remplacer cette lumière qui reste absente de nos yeux, tant que nous ne savons pas de quoi on veut nous parler.
« Il est joli garçon, je crois, » demanda-t-elle.
« Non, car il a l'air d'un tapir. Les yeux sont un peu ceux d'une reine Hortense pour abat-jour. Mais il a probablement pensé qu'il serait un peu ridicule pour un homme de développer cette ressemblance. » Et cela se perd dans des joues encaustiquées qui lui donnent un air assez mameluque. On sent que le frotteur doit passer tous les matins.
Swann, ajouta-t-elle, revenant au lit du jeune duc, a été frappé de la ressemblance de cette sirène avec la mort de Gustave Moreau.
Mais d'ailleurs, ajouta-t-elle d'un ton plus rapide et pourtant sérieux, afin de faire rire davantage.
Il n'y a pas à nous frapper, car c'était un rhume de cerveau, et le jeune homme se porte comme un charme.
On dit qu'il est snob,
demanda M. de Bréauté d'un air malveillant, allumé et en attendant dans la réponse la même précision que s'il avait dit « On m'a dit qu'il n'avait que 4 doigts à la main droite, est-ce vrai ?»«
Mon Dieu, non !»
répondit Madame de Guermantes avec un sourire de douce indulgence.
« Peut-être un tout petit peu snob d'apparence, parce qu'il est extrêmement jeune, mais cela m'étonnerait qu'il le fût en réalité, car il est intelligent, » ajouta-t-elle, comme s'il y eût eu, à son avis, incompatibilité absolue entre le snobisme et l'intelligence.
« Il est fin, je l'ai vu drôle !» dit-elle encore en riant d'un air gourmé et connaisseur, comme si porter le jugement de drôlerie sur quelqu'un exigeait une certaine expression de gaieté, ou comme si les saillies du duc de Guastalla lui revenaient à l'esprit en ce moment. Du reste, comme il n'est pas reçu, ce snobisme n'aurait pas à s'exercer, reprit-elle, sans songer qu'elle n'encourageait pas beaucoup de la sorte la princesse de Parme.